Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tenir debout. Nous allons lire dans 1 Pierre. Alors, il y a quelque temps que nous ne sommes pas revenus dans la première épître de Pierre, mais nous avons commencé une série dans cette première épître, 1 Pierre, au chapitre 1. Donc là, on revient un peu en arrière. 1 Pierre, au chapitre 1. Nous allons lire à partir du... Pardon, 1 Pierre chapitre 2, excusez-moi, à partir du verset 1, les 12 premiers versets. 1 Pierre chapitre 2. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La vie chrétienne est de plus en plus considérée par les chrétiens, peut-être les chrétiens modernes, comme un long fleuve tranquille. On n'adhère pas peut-être à l'évangile de prospérité, mais on n'est pas contre l'évangile de tranquillité. Ou contre l'évangile de facilité. On vient au culte une fois dans la semaine, pour certains, parfois de temps en temps, quand c'est possible. Et puis, on est content d'avoir ce temps ensemble, et le reste du temps, on partage le lot de tout un chacun. Si quelqu'un se hasarde à nous dire, mais quel est ta lutte spirituelle, quel est ton combat spirituel, eh bien, si quelqu'un se hasarde à nous parler de la vie chrétienne en tant que lutte, en tant que combat, en tant que guerre, on dirait, oh, cette personne est un fanatique un peu quand même. Hein. Et il lui manque la connaissance, il lui manque la paix. Et ce que nous sommes en Christ, parfois, peut nous amener à mal considérer la vie chrétienne, si on ne fait pas attention. Et c'est ce que l'apôtre Pierre fait ici. Il dit, vous, au contraire, vous êtes. Quoi? C'est beau ce qu'il dit. C'est profond et c'est juste, c'est vrai. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous fassiez quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Autrefois, d'accord, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Et voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous avez. Réjouissez-vous. Qui peut vous atteindre? Vous êtes le peuple de Dieu. Mais tout de suite après, au verset 11, il dit quoi? Bien-aimé. Et là, il parle avec, il fait jouer la relation fraternelle qu'il a avec eux. Je vous exhorte. C'est quelque chose qui est fort. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à quoi? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est comme s'il disait, bien-aimé, vous êtes en guerre. Vous êtes un peuple élu, une race, d'accord? Une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Mais vous êtes en guerre, hein? Ça vous rappelle quelque chose, hein? En 2020, lors de l'épidémie, lorsque le président de la République a dit, nous sommes en guerre. En guerre contre un virus. Et ici, quelque part, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens, malgré votre identité en Dieu, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Il dit, vous êtes peut-être en train de souffrir physiquement, puisqu'il parle beaucoup de souffrance dans cette lettre, mais il dit, vous ne devez pas oublier que vous êtes en guerre, que votre âme est en guerre. Il dit, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et le titre du message ce matin, c'est la guerre contre les convoitises charnelles. La guerre contre les convoitises charnelles. Peut-être la première chose que l'on pourrait souligner ici, c'est la valeur de l'âme. La valeur de l'âme. La Bible enseigne que l'homme possède à la fois une nature matérielle et une nature, on va dire, immatérielle. Hein, spirituelle, si vous voulez, immatérielle. Et la nature matérielle, c'est en général le corps. Et puis, ce qu'on appelle la nature immatérielle, c'est l'âme. Et je crois que l'âme-esprit... C'est la même chose dans l'écriture parce que parfois les passages sont interchangeables sur l'âme et puis sur l'esprit. Alors on comprend bien ce que c'est que le corps. Le corps a été créé bon, originellement, hein, exemple de maladie et même de mort. Et à cause du péché, eh bien la Bible dit que la mort est entrée dans le monde. Et l'homme a aussi cette nature immatérielle, son âme et son esprit. Et la Bible parle beaucoup de l'âme. Ici, l'apôtre Paul, Pierre, ici, parle de l'âme du croyant. C'est tout ce qu'il est spirituellement. Quand il parle pour le chrétien de son âme, il parle de cette âme qui est régénérée, de tout ce que le chrétien est en tant que nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais tous les êtres humains ont une âme. Dans Ézéchiel, la Bible dit, Dieu dit, l'âme... toutes les âmes sont à moi, l'âme du pécheur est à moi, l'âme du père, l'âme du fils, elles sont toutes à moi. Donc nous sommes constitués ainsi. Et donc pour le chrétien, cette âme, c'est le siège, on pourrait dire, de toutes ses facultés, de toutes ses affections, et il constitue son être spirituel qui est en communion avec Dieu. Et Pierre indique ici une mise en garde face à des ennemis de l'âme du chrétien. Et cela donc met en évidence l'importance de l'âme. Il dit pas bien-aimé ici, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre corps ou qui font la guerre à votre fortune ou qui font la guerre à votre santé, qui font la guerre à votre bien-être. Mais il dit qu'ils font la guerre à votre âme. Et je crois qu'en disant cela, il insiste sur l'importance de l'âme. Il dit aux croyants, attention, il y a là quelque chose qui est d'une extrême importance et qu'il ne faut absolument pas que vous ignoriez. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Pierre parle de l'âme. Ce n'est pas la dernière fois non plus qu'il parle de l'âme dans cette même lettre. Regardez en 1 Pierre 1:9 déjà. 1 Pierre 1:9, il dit, déjà au verset 8, il dit « Vous l'aimez ». Il parle de Christ, il parle de ses chrétiens. Il dit « Vous l'aimez, vous aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Il dit que les chrétiens se réjouissent. Pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé pour eux. C'est qu'ils obtiendront, pour prix de leur foi, le salut de leur âme. Pas leur salut de leur bien, pas le salut de tout ce qu'ils ont, pas la préservation de ce qu'ils ont, mais le salut de leur âme. Ça veut dire que c'est ce que vous avez de plus précieux. En 1 Pierre 1, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Il dit que les croyants ont une âme purifiée et que cette âme purifiée permet d'aimer avec un amour fraternel sincère. Autrement dit, sans une âme purifiée, on ne peut pas aimer de cette manière, avec un cœur ardent, avec un amour fraternel véritable. Il faut un cœur régénéré, il faut un cœur purifié. Tu vois, il y a un cantique qui dit « Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin, sanctifié. » Et donc, cette purification de l'âme est ce qui permet l'amour. Dans 2, chapitre 2, verset 25, il dit « Vous étiez des brebis, comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le gardien de vos âmes. » Dieu est le gardien de quoi? Des âmes, de l'âme. Rappelez-vous, disait au chapitre 1, « À vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est ce qu'il dit. Et là, ici, il dit que Dieu est le gardien des âmes. Il les protège, il les garde ici. Et puis, en 4, verset 19, 1 Pierre 4, verset 19, il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Il dit « Lorsque vous souffrez ici, eh bien, peut-être le corps, il subit de la douleur, mais ce que vous pouvez faire qui est des plus réconfortants, c'est d'abandonner votre âme, tout le centre de vos affections, ce que vous êtes au Seigneur Jésus-Christ, de le lui confier. Donc on voit ici, très rapidement, brossé, combien l'âme est importante, elle est précieuse, dans ce que dit Pierre ici. Et l'âme humaine, on peut voir qu'elle est précieuse ailleurs dans l'Écriture, parce que rien ne peut compenser sa perte. Absolument rien ne peut compenser la perte de l'âme. Le monde entier et les trésors du monde entier ne peuvent pas être mis au regard de l'âme humaine. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. En Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit ceci. Il dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est terrible ce qu'il dit ici. Il dit que vous pouvez rassembler tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez faire, tout ce que l'univers entier contient. Il dit face à une âme, à la perte d'une âme, ça ne pèse pas lourd. Et c'est dire donc l'importance d'une âme ici. Que peut donner un homme en échange de son âme? La réponse est évidente. Rien. Rien. L'âme humaine vaut plus que toute autre chose. Et Jésus affirme que absolument rien dans le monde entier ne saurait compenser la perte spirituelle de l'âme humaine. Aucune joie terrestre, aucun bien, aucune richesse, aucune jouissance. Il n'y a rien qui puisse tenir le change. La perte d'une âme est le plus grand cataclysme, la plus grande tragédie que peut connaître un homme. la perte spirituelle d'une âme qui sera livrée dans l'enfer, dans la souffrance, le châtiment éternel, est la plus grande tragédie. Luc 16, rappelez-vous ce que disait l'homme riche. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Car je souffre comment ? Cruellement. Car je souffre cruellement. Il désire une goutte d'eau qui n'arrivera jamais. Et Jésus dit que personne, il dit qu'il n'y a rien qu'un homme ne puisse donner en échange de son âme. Mais on peut voir aussi ailleurs la valeur de l'âme, que la valeur de l'âme est montrée par le prix que Dieu a payé pour la sauver. Dans cette même lettre, l'apôtre Pierre dit au chapitre 1, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ça n'est pas par de l'argent, ni par de l'or. On peut acheter beaucoup de choses avec de l'argent et de l'or. Beaucoup de choses. Mais on ne peut pas racheter une seule âme par de l'argent et par de l'or. Il a fallu quelque chose de bien plus grand que cela. Il a fallu que le Dieu trinitaire s'incarne et que Jésus vienne sur cette terre et qu'il meure, qu'il souffre et qu'il verse son sang, qu'il subisse la colère de Dieu pour qu'une âme puisse être arrachée de l'enfer. Et donc, on comprend la valeur d'une âme par le prix qui a été payé. Dans beaucoup d'endroits, l'apôtre Paul, il rappelle, il dit, n'oubliez pas à quel prix vous avez été racheté. Il dit, et glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rappelez-vous du prix qui a été payé. Le prix a été payé fixe la valeur de l'âme, l'importance de l'âme. Donc, l'apôtre Pierre ici souligne pour ses croyants l'importance de l'âme. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. On pense souvent à notre corps. On est malade, on souffre, on a des douleurs. On pense beaucoup à cela. Il y en a qui font, si vous étiez au parc hier, vous auriez compris qu'il y a, enfin, vous auriez vu qu'il y avait une discussion sur les régimes alimentaires, hein, et sur la lutte contre le sucre. Voilà. Hein, je pense qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par cela ici. C'est pas, hein. Et c'est bien, c'est très bien, mais on pense à toutes ces choses, n'est-ce pas? À toutes ces luttes que l'on doit avoir pour garder notre corps en bonne santé, et c'est une bonne chose, mais on ne pense pas forcément beaucoup à l'âme. Et probablement ces chrétiens étaient soucieux de toutes ces souffrances qui arrivent et ce qui arrivera à leur corps, et l'apôtre Pierre leur dit, mais il est bon même de souffrir si c'est la volonté de Dieu, etc. Mais il dit, n'oubliez pas une chose, par contre, votre âme, elle est importante. Il dit, il y a des ennemis qui font la guerre à votre âme, et votre âme est d'une extrême importance. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, il dit, c'est que il y a des ennemis de l'âme, qui font la guerre à l'âme. Pas qu'ils les chatouillent, pas qu'ils s'amusent avec, mais qui lui livre une guerre mortelle. Notre texte souligne qu'il y a une guerre qui est menée contre l'âme du croyant. Et le temps du verbe ici qui est utilisé, c'est que cette guerre est menée continuellement. Elle ne cesse jamais. Et d'ailleurs, la Bible décrit la vie chrétienne en termes de lutte, de combat, de guerre. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le peuple de Dieu, il est façonné par la guerre. Ils se battent tout le temps contre des ennemis. Rappelez-vous ce que, même dans le livre d'Exode déjà, Dieu dit au peuple, il y aura guerre perpétuelle entre le peuple d'Israël et Amalek. Il y aura la guerre, le peuple de Dieu, parce qu'il est le peuple de Dieu, il est l'objet de la guerre. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, il est question de combat. Combat, le bon combat de la foi. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne, dit l'apôtre Paul, de Jésus-Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. J'entends dire que vous êtes en train de combattre. Autrement dit, le croyant doit être tout le temps en train de combattre. Il y a une guerre qui lui est menée et il doit combattre. Éphésiens chapitre 6 verset 11 dit « Revêtez toutes les armes de Dieu ». C'est parce qu'il y a, il faut se protéger. Il y a beaucoup d'armes qui sont des armes défensives, il faut se protéger parce que il y a une guerre qui est menée contre le croyant. Galates 5, 17 dit « Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit ». D'accord? Ils s'opposent entre eux. Ils se mènent une guerre. Et donc le chrétien ne doit pas être naïf. Il doit considérer cette réalité qu'il y a des ennemis à son âme. C'est le texte qui le dit. L'apôtre Pierre dit, les convoitises charnelles font la guerre à votre âme. Alors avant de considérer ce que sont les convoitises charnel dont Pierre parle ici, peut-être on peut souligner que généralement on dit que le chrétien, enfin il y a dans la Bible trois ennemis du chrétien qui sont identifiés. Dans un passage, prenez avec moi Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 3. Il dit, vous étiez, je commence au bon endroit. Donc, Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 1, c'est ça, oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc il parle de celui qui ne connaît pas Christ, l'homme naturel. Comment est-ce que cet homme marche? Premièrement, selon le train de ce monde. D'accord? Deuxièmement, selon le prince de la puissance de l'air, de qui il s'agit ici? Du diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, nous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon, troisièmement, les convoitises de notre chair. Voilà l'expression de Pierre ici. D'accord? Et ces trois ennemis sont le monde, le diable et notre propre chair. Et les trois agissent de concert, pas indépendamment les uns des autres. Les trois agissent de concert pour faire vivre d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce verset décrit ce qu'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il marche selon le principe, le prince de ce monde, il marche selon le monde, les valeurs du monde, et il marche selon les propres convoitises de son cœur déchu et de son cœur mauvais. Le monde, le diable et la chair sont les principes qui régissent le monde. Mais une fois devenu chrétien, ces principes s'érigent en ennemi du chrétien et lui font la guerre. Et ce sont là les trois ennemis du chrétien. Le monde auquel nous sommes exhortés à ne point nous conformer. Ne vous conformez point au siècle présent ou au monde, on pourrait dire. Mais aussi à ne pas aimer. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ici. Et puis aussi le diable qui lance toujours des traits enflammés, nous dit Éphésiens chapitre 6, et nous sommes appelés à lui résister. Résister au diable et il fuira loin de vous. D'accord? Ou il y a un autre passage dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 où il est dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce qu'il faut faire? Résister lui avec une foi ferme. Ça c'est deux premiers ennemis et puis, le troisième, c'est la chair, et c'est celui que Pierre décrit ici. La chair ou les convoitises de la chair. L'homme naturel, voilà, qui accomplit la volonté de la chair. Et ce troisième ennemi est celui dont Pierre parle dans cette épître. Alors, qu'est-ce que les convoitises charnelles? Ce ne sont pas seulement les péchés physiques du corps. Parfois, quand on parle de convoitises charnelles, on a tendance à penser tout de suite péché du corps, péché sexuel en général. C'est ce qui vient à l'esprit. Mais le terme englobe beaucoup plus que cela. Regardez dans Galates chapitre 5, verset 19, où je vais vous le lire rapidement. Galates chapitre 5, verset 19, il est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les magies, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Pour dire que la liste n'est pas exhaustive. D'accord? Il dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et on voit ici qu'il y a des choses qui sont attachées au corps, n'est-ce pas? L'impudicité, l'impureté, etc. Mais aussi, il y a des choses qui ne sont pas attachées au corps. L'envie. C'est pas directement attaché au corps. Mais ça, c'est une œuvre de la chair. Quand je suis envieux envers une autre personne, eh bien, je le fais sous l'impulsion des convoitises charnelles. Donc, la chair ici exprime la totalité de la personne corrompue. Cette chair est mue par la convoitise, le désir. Elle désire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle agit contrairement à l'esprit. Elle trouve du plaisir dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle est impudique, dissolue, idolâtre, querelleuse, meurtrière, envieuse, sectaire. Elle accomplit le mal avec la plus grande satisfaction. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est un homme naturel, on dit, bon, je fais des choses qui sont mauvaises, mais dans le fond, je n'aime pas ça. C'est faux. Dans le fond, on aime cela. L'homme naturel aime faire le mal. Il aime le péché. L'homme pêche pour la simple satisfaction de faire ce qui est mal. Il y a des péchés qui apportent un certain gain matériel. Par exemple, si quelqu'un vole la voiture de quelqu'un d'autre et puis roule avec, d'accord ? S'amuse avec. Au moins, ça lui sert. Il a volé la voiture, il roule avec, il en tire un certain bénéfice. Le bénéfice que peut lui apporter le fait d'avoir une voiture, d'aller faire ses courses avec, de sortir avec ses amis, c'est mauvais ce qu'il a fait. C'est un péché, il a volé. Mais on pourrait dire qu'il en tire un certain bénéfice matériel. Mais imaginez quelqu'un qui brûle la voiture de quelqu'un d'autre qu'il ne connaît même pas. C'est même pas à qui elle appartient, il n'a jamais rencontré cette personne, il n'est pas fâché avec elle, il ne la connaît pas. Il brûle sa voiture. Quel est le bénéfice? Il n'y a pas de bénéfice matériel. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait par simple satisfaction de faire ce qui est mal. Il a brûlé la voiture de quelqu'un, ça lui fait plaisir de le faire parce qu'il a fait ce qui est selon sa nature pécheresse. Il répond, que l'apôtre Paul le dit ici, à la volonté de la chair. L'homme pêche parce que ça lui fait plaisir de faire ce qu'il sait être mal. La chair pêche car le péché est son plaisir. Et c'est ce que l'homme est sans Dieu, dès son entrée dans le monde. Il arrive dans le monde, la Bible le dit, en étant ennemi de Dieu. On l'a lu ce matin, les sœurs l'ont récité, ennemi de Dieu par ses œuvres et par ses pensées. Nous ne péchons pas à cause du monde ou du diable. Dis-moi, j'ai péché, c'est à cause du diable et du monde que j'ai péché. Non! Nous péchons parce que nous sommes de nature, nous avons la nature des pécheurs, et parce que nous sommes par nature du monde et par nature des enfants de colère, des enfants du diable, la Bible dit, dans 1 Jean. C'est pour ça que l'on pêche. Nous péchons parce que le diable et le monde nous donnent, disait quelqu'un, exactement ce que nous désirons. Et nous le faisons non pas parce que nous sommes tirés par le bras pour le faire, nous le faisons parce que ce qu'il nous propose de faire, ça correspond exactement au désir naturel que nous avons dans notre propre cœur. C'est pour cela que nous péchons. Et donc, quand on n'est pas à Christ, on le fait naturellement. Mais lorsque l'on devient un chrétien, eh bien, cette chair-là est toujours active en nous. Cette chair, elle est toujours présente en nous. Et Pierre décrit aux croyants, il en parle comme de quelque chose qui est là et qui leur mène une guerre. Quand l'homme est régénéré, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et la chair trouve maintenant l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui, on a lu dans Galates 5, 17, qui s'oppose à la chair. Avant, il n'y avait rien qui s'y opposait. Maintenant, il y a là une personne, une puissance qui s'oppose, des affections qui s'opposent aux affections de la chair. La Bible dit que la chair a des désirs contraires. La chair, elle a des désirs, mais ils sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors la chair, elle n'aime pas ça. Et elle déclare la guerre. Elle dit, je vais combattre ce truc. C'est pas possible. Elle va chercher à reconquérir le terrain, à réannexer pour être resté dans l'actualité, hein, à réannexer des bouts de territoire qu'elle estime avoir perdu à cause de l'Esprit de Dieu. Et donc, elle entre en guerre avec l'âme régénérée. Et cette nature pécheresse, il faut le savoir, n'est pas totalement anéantie. Elle est en opposition avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a dit, les convoitises charnelles sont des guerriers infatigables. Ici. Et puritain anglais disait ceci, il dit que le péché intérieur ne disparaît jamais. John Owen dit, le péché intérieur ne disparaît jamais ou n'arrête jamais son activité. Il cherche toujours notre destruction. Toujours. Il n'arrête jamais. Et donc c'est une guerre, c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit ici que les convoitises charnelles mènent une guerre continuelle à l'âme. C'est une guerre qui se poursuit inlassablement et les chrétiens doivent en être conscients. Alors comment font-elles la guerre, ces convoitises charnelles? L'apôtre Jacques dit ceci, il dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Donc il y a à l'intérieur cette convoitise qui est toujours là. Et quand on pêche, on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Et puis il dit, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et le temps du verbe indique que c'est une réalité qui est permanente et qui est pour tous les hommes. C'est invariablement le processus que prend dans lequel prend place la tentation. Alors, les verbes utilisés, être attiré et amorcé, ça décrit le fait d'être poussé par des désirs intérieurs et aussi le fait d'être appâté comme un poisson. Lorsque vous mettez un petit ver qui bouge dans l'eau ici, il voit ça bouger, il est content, il salive et puis il oublie tous les dangers, il se sent en confiance, il n'est plus méfiant et il va vers cet appât, il se fait prendre. Et c'est pareil pour le croyant, c'est ainsi que l'apôtre décrit ici le processus de la convoitise. La beauté du ver qui semble danser, n'est-ce pas, pour le poisson, eh bien devient un danger. Et dans 2 Pierre, on n'a pas le temps de le lire, mais dans 2 Pierre, vous pouvez lire à la maison, 2 Pierre 2, 14 et 18, l'apôtre Paul parle des âmes qui sont amorcées par la convoitise. Il y a quelque chose qui vient, un désir, et puis quelque chose qui vient les appâter, leur faire croire que ça, c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent avoir. Et puis ensuite, ils se font prendre. La convoitise chez Ève a été le désir du fruit défendu. La convoitise chez Acan, vous vous rappelez de Acan? Ça a été le désir d'un beau manteau de Chinéar. La convoitise chez David, ça a été le désir suscité par la vue de la silhouette de Bathsheba. La convoitise chez Géasi, ça a été le désir de posséder l'argent que Élisée a refusé de prendre. La convoitise chez Ananias et Saphira, ça a été le désir d'une réputation à bon marché. Est-ce que c'était un péché d'avoir vu le fruit? Est-ce que c'est un péché d'avoir vu le beau manteau de Shinéar? Est-ce que c'est un péché, peut-être au passage, de tomber sur une silhouette? Est-ce que c'était un péché de désirer une bonne réputation ici? Probablement pas. Le péché naît quand, au lieu de faire mourir la convoitise, je la regarde, je la recherche, je la provoque, je l'écoute, alors que je sais dans le fond de mon être, en tant qu'enfant de Dieu, que je pêche si je succombe. Personne ne le sait, personne ne le voit, mais moi je sais bien lorsque je suis en train de succomber à la convoitise. Et quelle est la prochaine étape pour Achan, pour Ève, pour David, pour Ananias et Saphira, pour Géasi? Ève mange le fruit, Achan vole le manteau, David commet l'adultère, suivi d'un meurtre, Géasi court après la fortune, Ananias et Saphira mentent au Saint-Esprit. Ça a commencé par une petite convoitise, mais la convoitise, elle mène la guerre, jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire ici. Et dans son livre sur la mortification du péché, John Owen dit, j'ai déjà cité cela plusieurs fois, mais je le redis encore parce que c'est tellement bien dit, il dit que le péché vise toujours le maximum. Il dit, chaque fois qu'il se lève pour tenter ou séduire, s'il avait libre cours, si le péché pouvait continuer, il irait vers le plus haut degré de sa catégorie. Chaque regard ou pensée impure serait un adultère. C'était le cas pour David. S'il pouvait, chaque désir envieux serait une oppression. Chaque pensée d'incrédulité serait de l'athéisme. S'il pouvait croître, serait un athéisme s'il pouvait croître jusqu'à maturité. Il dit ceci, il dit, tout éveil de la convoitise, s'il avait libre cours, atteindrait les hauteurs de l'infamie. Il est comme la tombe. La Bible dit qu'il est jamais satisfait, ne dit jamais assez. La tombe prend tout ce qu'on lui donne. Il ne dit jamais assez. Il dit c'est ainsi que ce qu'agit la convoitise. Il va toujours jusqu'à se développer au maximum. Il faut le savoir. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est pas juste être tenté pour être tenté. C'est une guerre qui va jusqu'à faire chuter l'âme. Et donc les convoitises charnelles, dit l'apôtre Pierre, font la guerre à l'âme. L'âme chrétienne a des ennemis. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez des ennemis. Il faut le savoir. Et les ennemis, c'est pas que le sucre. Le sucre est un ennemi, je suis d'accord. Mais c'est pas que le sucre. C'est aussi notre propre convoitise charnelle. Cette chair qui est toujours là et qui est extrêmement active, beaucoup plus active qu'on ne le croit. Elle accepte d'aller à l'église, elle accepte d'aller à l'étude biblique, elle accepte d'aller partout du moment où elle peut vous influencer pour vous faire chuter. Et puis troisièmement, ici, je voudrais souligner enfin ceci, c'est que l'âme humaine doit se défendre. Elle doit livrer guerre aussi. Quand on est en guerre, on reste pas comme ça. Hein, si un pays se fait attaquer et qu'il reste comme ça, il dit, bon, ben, que voulez-vous, on me fait la guerre, hein, je vais attendre que ça passe. Hein, vous allez vous lever pour dire, mais non, il faut prendre les armes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Pierre dit en substance ici. Il dit, je vous exhorte, en tant que étranger et voyageur, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Face à la détermination des convoitises charnelles, le chrétien est appelé à livrer aussi la guerre. Mais comment doit-il le faire? Alors, ne nous attendons pas, chers frères et sœurs, à un ensemble de méthodes du style qu'on voit souvent dans les magazines, comment perdre 5 kilos en 10 étapes. Hein? Ou 3 astuces pour éliminer le sucre. Hein? Vous pouvez trouver des choses comme ça. Alors, on ne va pas vous donner cela ici. Mais néanmoins, l'apôtre Pierre donne quand même une stratégie. Hein? Il dit ici, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles. abstenez-vous des convoitises charnelles. La manière de se défendre, c'est de contre les convoitises charnelles, c'est de s'abstenir des convoitises charnelles. Mais c'est pas beaucoup. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre à faire de ce que dit Pierre ici. Et qu'est-ce que ça veut dire s'abstenir? Le sens du mot, c'est se tenir à l'écart, mettre de la distance. Rappelez-vous la première vague épidémique 2020, c'est ça? Lorsque le président de la République, dans son allocution, très solennellement, a dit « Nous sommes en guerre ». Quelle est la mesure qui a été prise pour lutter dans cette guerre? La distanciation. Les gestes barrières. Très bien. Et je crois que Pierre dit la même chose. C'est pas si le président avait lu l'apôtre Pierre, mais Pierre dit en substance la même chose ici. Il dit pour lutter contre la contamination, contre l'effet des convoitises charnelles, il faut de la distanciation, il faut des gestes barrières. Il faut vous abstenir, mettre aussi loin que possible de vous les convoitises charnelles. En écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit la même chose. Il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Alors, le mal peut se présenter sous différentes formes, mais la manière de combattre, c'est de s'abstenir. C'est de l'abstinence contre toute espèce de mal. Alors, comment se traduit concrètement cette abstinence du mal? Alors, l'apôtre Pierre ne le dit pas précisément ici, mais à l'aide d'autres textes, on peut comprendre que pour s'abstenir des convoitises charnelles, il ne faut pas avoir comme préoccupation la gratification de la chair. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et si vous voulez lutter contre les convoitises de la chair, il ne faut pas avoir soin de la chair. Cette vieille nature sollicite toujours notre attention. Elle réclame son confort, elle réclame ses habits, elle réclame ses plaisirs, elle réclame ses distractions, comme le corps qui réclame son sucre, hein, n'est-ce pas? C'est pareil. Elle réclame ses sorties entre copains et copines, ses dépenses pour les objets passion. Elle réclame ses discussions parfois inutiles. Il y a plein de choses que la chair réclame. Et l'Écriture dit, il ne faut pas en avoir soin. Il ne faut pas se soucier de ce qu'elle désire, de comment je pourrais répondre à ses sollicitations. Il y a une petite histoire qu'on raconte. C'est un vieil Indien Cherokee qui raconte ça à ses petits-enfants. Alors, c'est pas une histoire biblique, mais bon. Mais il dit ceci, il dit, « Oh, je ressens un grand tourment dans mon âme. » Et je joue présentement une grande bataille. Ça ressemble un peu à ce que l'apôtre Pierre dit ici. Il dit, deux loups se confrontent au-dedans de moi. Il dit, un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. Et puis il dit, l'autre loup, il est bon. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. Et puis il dit à ses petits-enfants, la même bataille se joue présentement en vous, en chacun de nous en fait. Et puis un des enfants est là silencieusement, il dit, mais grand-père, lequel des deux loups va gagner? Et le vieux grand-père répond simplement, celui que tu nourris. Si vous nourrissez la chair, elle va gagner. Si vous nourrissez, si vous vivez par l'esprit, bien vous vivez. L'apôtre Paul dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, alors vous vivrez. D'accord? Et c'est cela qu'il faut faire. Ne pas avoir soin de la chair. Et pour ne pas avoir soin de la chair, eh bien c'est avoir soin de l'esprit, se laisser guider par l'esprit, vivre par l'esprit, marcher selon le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais une autre manière aussi de s'abstenir, c'est d'éviter les situations ou les activités qui sont propices au péché. C'est, on pourrait dire, la stratégie de l'évitement. Ici, il faut se tenir loin de ce qui pourrait inciter au mal. Il faut se tenir loin du mal, mais loin de ce qui pourrait inciter au mal. Loin de ce qui, bien que n'étant pas mal, pourrait inciter au mal. Et c'est là où on a peut-être le plus de difficultés. On se contente de dire souvent que quelque chose n'est pas mauvais en soi. Ça, c'est pas mauvais en soi. Se détendre, ça n'est pas mauvais en soi. Écouter cette musique, ça n'est pas mauvais en soi. Regarder ce film, ça n'est pas mauvais en soi. Sortir ici avec les amis, ça n'est pas mauvais en soi. Et un prédicateur que j'aime beaucoup, d'Israël, je vais citer d'ailleurs plusieurs extraits de ce qu'il a dit dans un petit livre qu'il a écrit à l'attention des jeunes, parce que quelques jeunes ici l'ont lu. Ça s'appelle « Exhortation aux jeunes chrétiens ». Mais c'est valable aussi pour les vieux chrétiens, parce que bien souvent, ils ont les mêmes problèmes, nous, les vieux. Et il dit dans son livre, « Nous ne devons pas nous contenter de ces mots. Il n'y a ici rien de mauvais en soi. Il faut aller plus loin et se demander s'il n'y a rien qui puisse devenir une occasion de péché. » Dire, « Bon, il n'y a rien de mauvais en soi. » C'est pas suffisant. Il faut dire, est-ce que dans ça, il y a possiblement, potentiellement une occasion de péché. Et une chose peut ne pas être mauvaise en soi, mais devenir à terme une occasion pour le péché. Se détendre sur le toit de sa maison, est-ce que c'est mauvais? Non. Pourtant, David s'est détendu sur le toit de sa maison. Et ça s'est terminé par de l'adultère et par un meurtre. C'était pas mauvais en soi. Mais lui aurait dû se poser la question. Parce que lui savait peut-être pourquoi il montait sur le toit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la situation elle-même, mais c'est tout ce qu'il y a déjà dans le fait de monter, se détendre sur le toit. Vous voyez? Se détendre en regardant ce film, est-ce que c'est mauvais? Regarder un film n'est pas forcément mauvais. Mais on peut tomber sur quelque chose qui fait penser à quelque chose et qui amène à quelque chose. Et dans ce sens, ça a été mauvais. Il aurait mieux valu l'éviter. Comme il aurait mieux valu pour David être à la guerre et ne pas être sur le toit de sa maison. Dans le psaume 23, il est dit, « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe. » C'est beau, il a de la robe, il a de la, c'est pas qu'est-ce qu'on dit, hein. Il a de la jambe et tout ce que vous voulez, hein. D'accord? On est là comme des connaisseurs, c'est pas l'alcool qui m'intéresse, c'est la beauté du truc, hein. C'est pas mauvais de regarder un beau rouge, etc. Je dis pas que c'est mauvais. Mais la Bible dit ici, il dit pas simplement, ne bois pas le vin. Il dit, ne le regarde pas. Pourquoi? Il dit. Parce qu'il coule aisément, Proverbe 23, 31, 32, et il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ça a commencé comment? J'ai juste observé la beauté du truc. D'accord? Et après, j'ai terminé dans des accès de colère contre mon épouse, contre mes enfants, ou dans un accident parce que j'étais ivre. Je dis pas que chaque fois que quelqu'un prend une coupe, il est ivre, c'est pas ce que je veux dire. Mais la Bible dit ce qu'il faut penser qu'il y a guerre. On est en guerre. On n'est pas dans une époque de paix spirituelle. On est en guerre et chaque chose l'ennemi va l'utiliser. Il est derrière chaque chose. Vous allez à l'église, il est derrière vous à l'église parce qu'il veut pouvoir vous faire chuter. Vos propres convoitises qui sont au fond de vous-même agissent pour vous faire chuter. Alors, il faut être vigilant sur tout. Il faut être vigilant sur tout. Et Israël dit encore ceci. Il dit, c'est là aussi un des grands inconvénients qui résulte des amusements du monde. Il peut être difficile à l'égard de quelques-uns d'entre eux de prouver qu'ils sont en eux-mêmes positivement mauvais ou anti-scripturaire. Il dit, c'est difficile de prouver que telle chose n'est pas scripturaire, telle chose. Les gens disent souvent, oh, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Montre-moi que j'ai pas le droit de faire ça dans la Bible. Prouve-moi un verset, j'abandonne tout de suite. D'accord? Et des fois, c'est, on peut pas trouver. Pas un verset qui dit ne faites pas ceci ou ne faites pas cela, etc. Donc c'est pas forcément évident de montrer l'aspect non scripturaire, et peut-être ça n'est même pas non scripturaire, d'une activité. Mais il dit ceci. Mais il y a peu de difficultés à démontrer que la tendance de la majorité de ces amusements est des plus dangereuses pour l'âme. Il sème, dit-il, les semences d'une disposition de l'esprit terrestre et sensuel. C'est ça qu'on ne voit pas. Que le diable, il est menteur. Il est tricheur. Mais je crois, parfois, qu'il a un peu de patience. Et qu'il sait semer tout doucement des choses pour attendre que ça germe et que ça fasse son chemin. Quoi, cet auteur, il disait, il y a des gens qui filent dans l'enfer les yeux grands ouverts. Il dit ça, ça concerne extrêmement peu de gens. Puis il y en a d'autres, c'est par marche d'escalier, petit à petit. Et ça, c'est la majorité d'entre les hommes. Ça commence pas très fort, un petit truc, boum, un autre petit truc, et on descend, et on descend, et on descend, ici. Et donc là, on sème des semences, il dit, d'un esprit terrestre et sensuel. Et ils font la guerre à la vie de la foi. Ils provoquent un besoin fiévreux d'excitation éminemment dangereux pour la santé de l'âme. Ils travaillent pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux et pour l'orgueil de la vie, comme l'apôtre Jean le dit en 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et il ajoute, il est dangereux de jouer avec des instruments tranchants. N'est-ce pas un enfant jouer avec un couteau? C'est pas mauvais un couteau. On peut faire de bonnes choses avec un couteau. On peut extraire les mauvaises herbes du jardin, on peut découper la viande, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on laisse un enfant jouer avec un couteau, il peut se blesser. On ne joue pas avec les objets tranchants. Et il dit, il est bien plus encore dangereux de prendre certaines libertés avec nos âmes immortelles. Celui qui veut éviter la chute ne doit pas venir jusqu'au bord du précipice. Il doit veiller sur son cœur comme un magasin rempli de poudre, et prendre garde à ne pas laisser approcher l'étincelle de la tentation. Il dit, considère ton âme comme, ton cœur comme un magasin rempli de poudre. La moindre étincelle de la tentation, ça le fait exploser. Alors tu l'éloignes le plus possible. Pas la peine de t'approcher du bord et puis de jouer, de montrer jusqu'à quel point tu peux aller en faisant ce qui est mal sans chuter véritablement. Jusqu'à quel point tu peux flirter sans tomber un peu plus en avant. Il dit jeunes gens, mais j'ajoute aussi vieillards, les vieux comme moi, et les vieilles aussi, les plus âgés. Soyez prudents et sages, dit-il. Ne cherchez pas à expérimenter jusqu'à quel point vous pouvez permettre à l'ennemi de vos âmes de s'approcher de vous. L'ennemi de nos âmes, le monde, la chair et le diable. Jusqu'à quel point ils peuvent s'approcher de vous, sans cependant qu'ils s'en emparent. Tenez-le à distance. Barrière. Distanciation sociale. Geste barrière. Tenez-vous autant que possible à l'abri de la tentation, ce qui vous sera d'un grand secours pour pouvoir vous tenir à l'abri du péché. Je termine en disant que cela nous pousse à considérer tout ce que nous faisons. En considérant que dans tout ce que nous faisons, il y a possibilité pour que notre âme soit en danger. C'est ce que le texte nous pousse à faire ici. Je ne peux plus considérer que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Je vais m'habiller comme ceci ou m'habiller comme cela. Porter. Il n'y a rien que je puisse faire, d'accord, sans considérer que nous avons une âme qui est précieuse et qu'il y a des ennemis qui constamment cherchent à l'assaillir. Alors on peut dire, oh, mais si c'est ça, vivre la vie chrétienne, ça vaut pas le coup. Ben, on est en guerre. On est en guerre. Quand on est en guerre, on dit pas si c'est ça, c'est pas la peine. Non, on est en guerre. Pierre dit, oui, nous sommes des chrétiens. Oui, nous sommes une race élue, sacerdoce royal, mais nous sommes avec des ennemis autour qui cherchent la moindre occasion pour nous faire chuter, pour nous faire faillir. Et il faut s'abstenir du mal le plus loin possible. Je dois réfléchir à comment je dois m'abstenir du mal. Je dois considérer chaque chose et voir si en faisant ça, je ne suis pas en train d'ouvrir une porte à ça. Ça demande de réfléchir. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça où le diable remportera la victoire. Notre propre convoitise remportera la victoire. Que le Seigneur nous aide vraiment à considérer ces choses. Je termine avec deux versets. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et puis, Galates 5,16 qui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Nous te prions, Seigneur, que tu nous conduises dans ta parole et que tu nous donnes de ne pas être des enfants inconsidérés. Des gens qui vivons comme si il n'y avait aucun problème. Que nous ne soyons pas des partisans de l'évangile de tranquillité où nous pensons que la vie est un long fleuve tranquille. Seigneur, ta parole nous montre que nous avons des certitudes en toi, que tu es le gardien de nos âmes. Mais en même temps, elle nous exhorte à tenir notre âme loin des convoitises de notre propre chair. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de mesurer l'importance de notre âme, afin de ne point la laisser souiller par le mal, d'où qu'il vienne ou qu'il soit. Et Seigneur, aide-nous à comprendre que le mal ne vient pas simplement de l'extérieur, mais bien souvent, c'est du dedans de nous-mêmes, Seigneur, que viennent ces aspirations, parce que cette nature ancienne est toujours active. Et que ces désirs, ces convoitises sont toujours présentes et qu'elles nous font la guerre véritablement, chaque jour, chaque instant, chaque minute de notre vie. Mais Seigneur, nous pouvons vaincre parce que tu nous as donné ton esprit qui s'oppose au désir de la chair. Alors donne-nous de marcher selon ton esprit, d'aimer ta parole, de la méditer, de la serrer dans notre cœur. Et Seigneur, de mettre autant de distance que possible entre nous et toute espèce de mal. Aide-nous à le faire, à le vivre pour la gloire de ton nom. Amen.